Rubrique « Il y a 170 ans ». Juin 1848, la République bourgeoise écrase la révolte ouvrière. Il y a 170 ans, en juin 1848, la classe ouvrière parisienne était écrasée par l'armée du général Cavaignac. Ainsi se terminait la période révolutionnaire, ouverte quand, en février 1848, une première révolution avait chassé du pouvoir le roi Louis-Philippe et mit fin à la monarchie de Juillet. Avec la Deuxième République, l'espoir d'un régime de démocratie, de liberté et de justice sociale était alors né. Après les journées révolutionnaires de juillet 1830, la monarchie de droit divin de Charles X avait été remplacée par la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe. Mais ce changement n'en était pas un. Le Parlement restait élu par seulement 250 000 électeurs parmi les plus riches du royaume. Face aux contestations venant aussi bien des milieux bourgeois écartés du pouvoir que des masses populaires, le gouvernement répondait par la répression et les interdictions. L'opposition républicaine. Au sein du Parlement, seules quelques dizaines de députés, dont Ledru Rollin et Lamartine, se déclaraient partisans de la République. La majorité des députés de l'opposition se contentait de réclamer l'élargissement du droit de vote et quelques libertés supplémentaires dans le cadre de la monarchie. Au sein de la population, la crise économique de 1847 renforçait le mécontentement. Les mauvaises récoltes des deux années précédentes et la spéculation avaient renchéri le prix du pain. Dans plusieurs régions, des émeutes avaient éclaté. Aucune réunion publique n'étant tolérée, les députés de l'opposition organisèrent une campagne de banquets réclamant une démocratisation du régime. Les revendications exprimées lors des toasts devinrent de plus en plus radicales, jusqu'à mettre en avant la souveraineté du peuple, autrement dit, le suffrage universel et la République. Les ouvriers imposent la République. La campagne des banquets contribua à répandre une agitation politique dans les faubourgs populaires. Des travailleurs, des étudiants, de plus en plus exaspérés, se massaient autour des salles et reprenaient la revendication de la République, en y mettant cependant un contenu à eux. Pour les ouvriers, elle devait évidemment être sociale, garantir le droit au travail et des salaires permettant de vivre. Devant la radicalisation des banquets, le roi décida d'interdire celui organisé le 22 février dans la capitale. Il pensait disposer de la force et nomma Bugeaud à la tête des troupes rassemblées à Paris, un général déjà responsable de la répression des révoltes de 1834. Mais dans les heures qui virent la confrontation des troupes avec le petit peuple, l'indécision allait faire place à la fraternisation. Le 22 février, des groupes d'ouvriers acclamaient les soldats, leur rappelant leur appartenance au peuple. Le 23, une fusillade éclata. 52 manifestants tombèrent. Un tocsin sonna dans plusieurs églises, appelant la population à s'armer et à se défendre. Les manifestants, majoritairement ouvriers, érigèrent des barricades, étalèrent sur le sol de la vaisselle cassée pour bloquer les cavaliers, pillèrent les armureries et obtinrent des armes venant des troupes. Devant l'insurrection et constatant l'incapacité des troupes à en venir à bout, Louis-Philippe dut abdiquer. Les députés républicains constituèrent immédiatement un gouvernement provisoire, puis se rendirent à l'hôtel de ville devant lequel la population s'était massée. Les nouveaux ministres cherchaient déjà les formules qui auraient pu leur éviter de trancher, sous la pression des masses, la question du futur régime. Celle-ci devenait menaçante et les barricades étaient toujours hérissées. Le poète Lamartine, républicain connu, ministre du nouveau gouvernement, dut se résoudre à proclamer la République. Drapeau rouge ou drapeau tricolore ? Pour calmer les insurgés, Lamartine manœuvra en tentant des discours prônant la concorde entre les classes, s'opposant à la volonté exprimée par une partie des insurgés de faire du drapeau rouge le symbole de cette République nouvellement proclamée. Il imposa le drapeau tricolore, auréolé selon lui de citation, « la gloire et la liberté de la patrie », déclarant « je repousserai jusqu'à la mort ce drapeau de sang que vous nous rapportez ». Fin de citation. Ce choix du drapeau avait un sens de classe. En défendant le drapeau tricolore, Lamartine défendait la République bourgeoise. Les ouvriers, eux, reconnaissaient dans le drapeau rouge le symbole de leur lutte. Le discours de Lamartine était la première faille dans la fausse unanimité qui dominait cette révolution de février. La faille allait s'élargir dans les semaines et les mois suivants. Les ouvriers ne pouvaient accepter la confiscation de leur révolution par la bourgeoisie. Ils ne pouvaient renoncer à leurs revendications principales, le droit au travail et leurs aspirations sociales. Dans l'affrontement de classes qui se préparait, la bourgeoisie disposait d'une longueur d'avance. La République qu'elle voulait était la sienne. Pour l'imposer, il lui fallait désarmer les ouvriers et briser leur volonté de lutte. Pour en finir avec les travailleurs en armes, le gouvernement fit d'abord arrêter les chefs ouvriers, Barbès et Blanqui, après une manifestation qui avait envahi l'Assemblée. Le général Cavaignac reçut les pleins pouvoirs. La bourgeoisie prend l'offensive. Le gouvernement provisoire prétendit s'attaquer à la misère en créant les ateliers nationaux chargés des travaux publics où les chômeurs trouvaient à s'embaucher. Mais le 21 juin, les ouvriers de moins de 25 ans qui y travaillaient furent contraints de s'engager dans l'armée et les plus âgés devaient se préparer à partir en province. Face à cette provocation gouvernementale, les ouvriers parisiens se soulevèrent au cri de « la liberté ou la mort ». Dressèrent des barricades dans une grande partie de Paris. Puis, 4 jours durant, du 23 au 26 juin, ils affrontèrent les armes à la main, l'armée, les gardes mobiles et la garde nationale. La répression fit plus de 3 000 morts parmi les ouvriers. Écrasée, la classe ouvrière avait toutefois montré qu'elle n'était pas seulement la classe souffrante des nouveaux bagnes industriels dont la bourgeoisie commençait à couvrir l'Europe. Elle n'était plus non plus une simple masse de manœuvre que la bourgeoisie pouvait utiliser pour s'imposer au pouvoir. Pour les militants ouvriers de l'époque, et notamment pour Marx et Engels, qui quelques jours avant la révolution de février avaient lancé le manifeste du Parti communiste, juin 1848 ouvrait une ère nouvelle. La classe ouvrière était désormais, et est restée, la seule classe véritablement révolutionnaire, la seule capable de transformer la société. Inès Rabat.